Chapitre 52.
Calme-toi et recommence,
dit mon père à Emma. Ma sœur est assise sur le canapé et parle à toute vitesse. Nous sommes tous réunis autour d'elle, aussi frais que nous puissions l'être à 6h du matin.
Mais il faut aller vite! Chaque minute compte!
Ma sœur a le sens de la mesure. Jérôme lui presse l'épaule et prend le relais.
Exceptionnellement, Milan avait la permission de minuit. On s'est endormi avant, on lui fait toute confiance. Il n'a jamais dépassé l'heure. En allant aux toilettes, je suis passée devant sa chambre. La porte était ouverte, il n'était pas dans son lit. Son portable sonne dans le vide.
Il lui est forcément arrivé quelque chose,
se lamente Emma.
Ce n'est pas son genre. Je l'aime comme mon fils, je ne m'en remettrai jamais.
Colombe lève les yeux au ciel.
Devons-nous prévenir les pompes funèbres ou attendons-nous d'avoir retrouvé le corps?
Maman,
s'offusque ma mère.
Ce n'est tout de même pas ma faute si ta fille a le cerveau qui baigne dans la confiture de coin.
Vous savez où il devait aller?
Demande mon frère. Jérôme secoue la tête.
Il rejoignait un groupe de jeunes qu'il a connus ici. Il traîne à droite à gauche, je ne sais pas où exactement. On va aller le chercher,
annonce mon père en se levant.
On va faire plusieurs groupes et aller dans les endroits stratégiques. Jérôme et Romain, vous allez vers le port. Emma et Pauline, vous faites les plages et la promenade. Chérie, tu viens avec moi, on parcourt les rues du centre. Maman et Colombe, vous pouvez garder les enfants? Ils devraient dormir encore plusieurs heures.
Bien sûr, allez, ne vous inquiétez de rien,
répond Nona. J'ai le temps de mettre un jean? Je demande. Les regards de ma sœur et de ma mère me répondent. On enfile chaussures et vestes et nous voilà partis à la recherche de l'ado perdu. Les rues sont encore plongées dans le sommeil. Le ciel rosé s'anime doucement. Ma sœur et ses grandes jambes avancent vite. Je cours presque à ses côtés. Mon short de nuit s'est transformé en string. Si des policiers passent, je me fais embarquer. Emma tourne la tête de tous côtés en appelant Milan. L'inquiétude fait trembler sa voix. Je n'ose imaginer l'état de son cœur. Je regarde dans les ruelles adjacentes. Sous les bateaux appuyés contre le muret, sous la jetée, incapable de trouver les mots pour réconforter ma sœur. Durant les 3 semaines qui viennent de s'écouler, nous avons vécu côte à côte sans être vraiment ensemble. J'ai essayé à plusieurs reprises de me rapprocher d'elle, mais elle est restée sur la réserve. Comme si elle prenait soin de faire en sorte que nos chemins restent parallèles, sans jamais se chevaucher. Alors je l'ai observée de loin. Lorsque j'ai quitté la maison familiale, elle avait 18 ans et une certitude. Un jour, son prince viendrait. Dans sa chambre, les posters de chevaux côtoyaient les romans d'amour. Comme elle ne parvenait pas à se résoudre à jeter ses vieilles Barbie, elle les avait installées dans une jolie maison sur une étagère, à l'abri des regards. Régulièrement, elle venait se glisser dans mon lit pour me confier ses rêves, me décrire son futur mari, me parler de ses futurs enfants, imaginer sa future maison. Je la regardais, avec son petit nez et ses longs cils bruns, m'assurer que sa vie ne commencerait vraiment que quand l'amour, le vrai, se présenterait. En attendant, elle s'y préparait. 15 ans plus tard, elle a un mari attentionné, 3 enfants, 2 maisons, 2 appartements et 1 hara. Et elle sait précisément ce qu'elle portera, ce qu'elle mangera et où elle se trouvera à chaque instant durant les 4 prochaines semaines. Ses étagères sont étiquetées, ses menus vérifiés par un diététicien, ses vêtements classés par saison, catégorie, puis couleur. Chaque détail de la journée écoulée est noté le soir dans un cahier. Rien n'est laissé au hasard pour que le conte de fées se poursuive après. Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Durant des années, nous ne nous sommes croisés que lors de rares repas de famille. Nous parlions des enfants, ceux qui étaient là, ceux qui arrivaient. Nous échangions quelques mots à propos de la météo, sujet idéal pour ceux qui n'ont rien à se dire. Et je repartais avec le sentiment étrange de ne plus connaître ma propre sœur. Ben en riait. Tout au long du trajet retour, j'oscillais entre regret de constater la dégradation de notre relation et colère de la voir si douce avec les autres et si distante avec moi. L'autre soir, en l'observant donner le sein à Nouméa en racontant Blanche-Neige à Sydney, j'ai pris conscience que j'étais heureuse pour elle. Je trouve sa vision du couple et de la femme dépassée. Elle est dépendante, voire soumise à son mari, qui aime manifestement jouer au bilboquet avec d'autres. Elle s'épanouit dans la vie dont elle rêvait. Elle ne se cache plus pour jouer à la poupée. Au vu du désastre de ma vie personnelle, je suis mal placée pour porter un jugement. J'ai juste le droit de me réjouir pour ma petite sœur, si différente de moi soit-elle. Plus les minutes passent, plus la voix d'Emma est aiguë. Si Jules avait disparu, j'imiterais sans doute le coq. Je pose ma main sur son bras. Emma, on va le retrouver. Il a peut-être oublié l'heure, il devait trop s'amuser. Je suis sûre qu'il va bien. Elle ne ralentit pas. Aucune réaction. Je continue de la suivre au pas de course en prenant soin d'éviter les racines des arbres. Nous arrivons au bout de la promenade. Pas une trace de Milan. Emma reste plantée, les mains sur les hanches, à bout de souffle. Son visage est déformé par l'angoisse. Elle est livide et des cernes violets creusent son regard.
« Ça va aller, tout va s'arranger !»
dis-je en lui caressant l'épaule.
« Mais qu'est-ce que t'en sais, toi ? » hurle-t-elle. « Et je t'en prie, arrête de faire celle qui s'y intéresse. Qu'est-ce que ça peut te foutre que Milan ait disparu ? Qu'est-ce que ça peut te foutre que je sois morte de peur, hein ? Rien ! T'en as rien à foutre de nous, de moi. Alors s'il te plaît, ne fais pas semblant. »
Je suis sonnée. Parce que je ne l'ai jamais vue dans cet état d'abord, et parce que ces mots me cognent. C'est elle, l'égoïste qui se désintéresse de tout ce qui ne la concerne pas, qui ose me dire ça ? Si elle n'était pas aussi inquiète, je ne me priverais pas de lui répondre. Elle tourne les talons et se dirige vers la plage centrale. Je me lève et la suis à distance cette fois, vexée. Nous passons devant la jetée quand son téléphone sonne.
Allô ?
Oui ?
Ah, merci, mon Dieu, merci. Mais il était où ?
D'accord, merci. J'arrive. Elle raccroche et se laisse tomber sur un banc avant de se mettre à pleurer bruyamment. Tout son corps est secoué de spasmes. J'ai envie de la serrer dans mes bras, mais j'ai peur de me prendre un coup de pied. Alors je reste plantée à quelques mètres, silencieuse et soulagée. Au bout de plusieurs minutes, ma sœur lève son visage inondé vers moi.
« Je suis désolée, »
souffle-t-elle.
« Je ne voulais pas m'énerver comme ça. »
Je m'assois prudemment à ses côtés. « C'est pas grave. Tu étais angoissée, tes paroles ont dépassé ta pensée, je comprends. » Elle se mouche puis secoue la tête.
« Pas du tout. Je n'aurais pas dû te crier dessus, mais je pensais tout ce que je t'ai dit. »«
Tu pensais tout ce que tu m'as dit ?» Je répète comme pour me persuader que j'ai bien entendu.
« Ce n'est pas le moment, il faut que je rentre retrouver Milan. » « Bien que tu ne le demandes pas, sache qu'il comptait fuguer parce qu'il ne veut pas rentrer à Bordeaux et quitter son amoureuse. »
Je bondis sur mes pieds.
« Mais merde à la fin ! Je ne vais pas te laisser me traiter d'égoïste alors qu'il n'y a pas plus autocentré que toi ! Tu m'as appelé combien de fois depuis l'année dernière ? Zéro ! Tu t'es inquiété de savoir si ton neveu vivait bien la séparation de ses parents ? Tout ce qui compte, c'est toi, et les prouesses de ton mari, et de tes enfants. Tu as changé, Emma. T'es devenue arrogante, prétentieuse, froide. Je ne te reconnais plus. »
Elle essuie rageusement les dernières larmes qui osent afficher sa faiblesse.
« C'est vrai que je suis devenue froide, » dit-elle en me toisant. « Mais uniquement avec toi. Tu m'as abandonnée, Pauline. On était comme des jumelles. On passait tout notre temps ensemble. On se racontait tout. Et tu es partie vivre avec Ben. Tu savais que les relations étaient compliquées avec maman et que papa buvait. J'avais 18 ans. Romain en avait 13. Et tu nous as laissés. Le pire, c'est que tu as emménagé à quelques kilomètres à peine. Tu aurais pu venir nous voir, nous appeler, mais rien. Du jour au lendemain, on a dû faire sans toi. Tu nous faisais l'honneur d'être là pour Noël et les anniversaires quand tu n'avais pas mieux à faire, c'est tout. »
Sa voix ne tremble plus. Son assurance est revenue.
« Il y a 15 ans, » poursuit-elle, « tu m'as abandonnée, sans te soucier du mal que ça pouvait me faire. J'ai passé 9 ans à attendre que tu te souviennes de moi et puis Jérôme est arrivé. » Mais même ça, tu n'en avais rien à faire. Le soir où je devais te le présenter, tu as annulé au dernier moment. Tu te rappelles ? J'avais réservé une table pour 4, on a mangé en tête-à-tête. Tu m'as lâchée, Pauline. Alors j'ai dû avancer comme j'ai pu. C'était plus facile de faire comme si tu n'existais plus. Comme si ma grande sœur n'avait jamais été si proche de moi. Et là, parce que tu vis une épreuve, tu te permets de me juger ? Tu oses me faire la leçon ? Je ne te demande pas comment tu vas, c'est vrai. Mais j'appelle papa au moins 2 fois par semaine pour prendre de tes nouvelles. Et toi, qu'est-ce que tu sais de moi, chère grande sœur ? Est-ce que tu sais que je vais chez le médecin plusieurs fois par mois pour m'assurer que je n'ai pas une maladie grave ? Est-ce que tu sais que je me lève chaque matin avant mon mari pour me maquiller, qu'il ne m'a jamais vue sans artifice ? Est-ce que tu sais que je suis obligée de laver mes vêtements neufs 3 fois avant de les mettre ? Est-ce que tu sais que Sydney est en cours de diagnostic parce qu'elle est sans doute autiste Asperger ? Est-ce que tu sais que mon mari n'est jamais là ? Est-ce que tu sais que je dors dans la chambre de Nouméa pour vérifier qu'elle respire bien ? Ne t'inquiète pas, Pauline. Je ne t'accuse de rien. Ce n'est pas de ta faute, tout ça. Mais tu es la première personne à m'avoir donné envie de vivre dans un conte de fées plutôt que dans la réalité. Alors sois gentille. La prochaine fois que tu auras envie de me juger, demande-toi si tu es bien placée pour le faire. Sur ce, Milan a besoin de moi.
Sans me laisser le temps de répondre, elle se lève et s'éloigne à toute vitesse vers la maison de la plage. J'ai le cœur qui tape dans ma poitrine, dans mon cou, dans mes oreilles. Des larmes inondent mes joues. Je me sens meurtrie, blessée, seule, égoïste.